Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire avec les podcasts de la rédaction de Gameblog.fr. J'aime bien répéter ce nom, je l'aime bien en fait. Bienvenue autour de cette table à repasser incroyable, celle qui a fait fantasmer tant de personnes sur la galaxie internet. Et autour de moi, bien évidemment, une assistance folle, puisque Julo, Angel, Raon et Kaf sont autour de nous.
Bonjour.
Voilà.
Salut.
Messieurs, aujourd'hui nous allons parler de l'avenir des manettes. Ces choses que nous tenons entre les mains depuis des décennies, ces bâtons de joie, comme diraient certains, ou ces petits manchons pour d'autres. Aujourd'hui qui connaissent une véritable révolution avec l'arrivée de la Wiimote, qui a changé la donne, mine de rien, depuis quelques temps, la manière dont on joue. La Nintendo DS avec l'apparition d'un stylet pour jouer. Mais bien évidemment, il y avait eu beaucoup d'essais de changer notre manière d'appréhender l'interaction avec les jeux vidéo dans les années passées. Donc, on va commencer par faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est fait. Certains sont des accessoires, purement et simplement. D'autres, des tentatives de manettes surréalistes, comme on va pouvoir le voir. Et puis, en fin de podcast, nous poserons la question, donc, quel avenir pour les manettes? Est-ce que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on se transformera en Paco Rabanne? Est-ce qu'on aura toujours quelque chose entre les mains? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de trouver, de définir et de prendre des paris.
Oui. On sait qu'on aura toujours quelque chose entre les mains, mais bon.
Entre les jambes, en tout cas.
Oh là là.
Messieurs, est-ce qu'on peut commencer par parler un petit peu de tout ce qui s'est fait dans le passé concernant l'interaction avec le jeu vidéo? Il y a eu des choses assez hétéroclites. Il y a eu des robots. Je pense à le robot, par exemple, qui était une sorte d'accessoire assez étrange. On reviendra dessus tout à l'heure. Il y a eu le Power Glove, il y a eu les manettes de Namco, le Joy-Con, manette qui se cassait en deux. On va en parler. Qui veut prendre la parole pour commencer? Et avec une liste incroyable. Donc plutôt du PC.
Ouais, moi, c'est des accessoires.
Parce que
faut savoir que non, sur console, ils ont fait quand même des maracas, des tam-tams, des machins, tout ce que tu veux. Sur PC, ils ont fait des vraies merdes aussi. Ouais. Et en fait, ce que les gens ne savent pas forcément, parce que d'ailleurs, ils les achètent pas, c'est que ça continue.
Ah bon ?
Et en fait, une société qui a été très très forte dans les trucs très bizarres, c'est Microsoft.
Mm-hmm.
Donc Microsoft, fin des années 90, avait une grosse division accessoires.
Sidewinder.
Des Sidewinder, des volants extraordinaires, des joysticks à retour de force fantastiques.
Et la première manette Wiimote-like machin.
Eh ben justement. Alors justement, tu vois, ils avaient des accessoires qui étaient bien. Et il y avait des mecs dans un bureau au fond, je sais pas, ils ont voulu se distinguer, ils ont voulu faire des créations, n'est-ce pas?
Dans les années 80, c'est ça?
Alors ouais, c'est fin 80. La première où on a commencé à flipper, ça a été donc en 98. Et ça a été le Freestyle Pro, justement, qui est l'ancêtre du Six Axis de merde. Et
il l'avait sorti avec un jeu de moto à l'époque.
Voilà. Et
c'était
pourri.
C'était quoi déjà?
Je sais pas, mais c'était super pourri parce qu'en fait, il n'y avait pas de point neutre. Contrairement au Six Axis que tu arrives à peu près à remettre. Si tu
à l'équilibre, veux, on va dire.
Celui-là, en fait, c'était tellement mal fait que tu ne retrouverais jamais le point neutre. Donc, de toute façon, tu étais obligé de bouger avec sans arrêt. C'était une catastrophe.
Donc, c'est une vraie manette.
C'était un pad avec.
C'est exactement ce que
c'est. Le déplacement dans le mouvement.
Voilà.
Dans l'espace, d'accord.
En fait, tu pouvais bouger soit avec la croix de direction, soit avec le pad directement.
D'accord.
Et ça marchait pas du tout.
C'est quoi? C'est une espèce de jauge de mercure à l'intérieur qui permet d'indiquer.
Je sais pas dans celui-là ce que c'était, mais à mon avis, c'était pas assez bien fait.
Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il y a eu un jeu de flipper sur DS. On reviendra dessus tout à l'heure. Une cartouche à mercure.
Ensuite, ils ont.
Comment il s'appelait déjà?
Le Freestyle Pro.
Freestyle Pro. Ah, voilà. C'était Freestyle.
Il n'y avait pas de Freestyle. Hein. Je ne suis pas pro, je veux dire. Il était
très bien.
Pro, quoi.
Le Freestyle Amat.
Ouais, au secours, quoi. Donc, après, en 99, ça a été pire. Il y a eu plus de budget pour la drogue.
Toujours chez Microsoft.
Toujours chez Microsoft, qui a vraiment sur PC tous les records. Hein. Mm-hmm. Le Dual Strike, donc.
Qu'est-ce que donc bien que c'est donc?
Le Dual Strike, c'est un peu comme le truc con là, de Namco.
De Namco.
C'est une manette en fait qui était
censée. Le NEC-Con.
C'était censé remplacer le couple clavier-souris avec une manette en deux parties en fait, si tu veux.
Putain, je me souviens de ce truc-là.
Voilà.
Comment c'était de la merde.
C'était une horreur. Ouais. Donc en fait, ça pivotait sur une espèce d'axe, les deux parties de la manette. Imagine une Wiimote et un Nunchuk en fait avec un truc au milieu
attaché
qui brûlait, en fait,
avec 3 kilos de fonte pour le faire tenir sur le bureau.
Ah bah Microsoft.
Non, tu l'avais, c'était un paddle en fait, si tu veux. Donc c'était vraiment
c'était
comme un
super
paddle.
Lourd, bah, ouais.
Mais alors quel était l'intérêt? Qu'est-ce que ça apportait en termes ergonomiques?
Il voulait
Ok, on arrête tout, je l'ai encore.
Celui-là, le Dual Strike avec le truc qui tourne.
Ouais, bah, ça fait partie des trucs que j'avais pris dans la caisse à paddle de joystick qui ne servait à rien.
Exact. Voilà. Parce que cela, en fait,
parce que tu ramasses tout ce qui traîne et qui sert à personne.
Mais non, mais quand on avait besoin, tu vois, quand on jouait à un jeu PC, je me disais, tiens, je prendrais bien un paddle pour essayer, j'allais dans la caisse à paddle.
Avec ce test de leur boutique accessoire.
Voilà, à paddle qui ne sert à rien, tu vois, t'en prenais un au pif, de toute façon il en restait encore 50.
Bah, visiblement c'est pas que ça sert à rien, c'est que c'était de la merde.
Et puis j'ai eu le temps de me rendre compte que c'était de la grosse merdasse. Et
je te rappelle Angel que c'est moi qui faisais donc cette rubrique pendant très longtemps. Les rangeais là sciemment.
Mais quand on les range.
Moi ce que j'aimerais savoir,
pour quand tu allais les chercher.
Moi ce que j'aimerais savoir c'est pourquoi c'est de la merde.
Parce que en fait c'était vraiment fait pour les Quake-like. Ils avaient décidé de remplacer le couple clavier souris et donc à la base le précepte de base c'est une idée de merde dans la mesure où c'est une fausse bonne idée parce que le couple clavier-souris fonctionne très bien, mm-hmm. ça marche très bien, c'est hyper...
Mais c'est un peu volumineux.
Hyper... Mais c'est pas ça, c'est quand les jeux sont faits pour de toute façon. Donc,
et c'est puis t'as l'avantage d'en avoir avec tous les micros.
C'est fait pour la réactivité de la souris, etc. Tu vois. Mm-hmm. Et donc ce paddle, déjà il n'était pas du tout géré par les jeux, donc déjà tu passais deux heures à reconfigurer tous les boutons, etc. pour que ça fonctionne. Et après tout était plus lent. C'était comme quand on joue sur un FPS console, donc mais... Déjà les
faites PCistes, très attention à ce que vous allez
non,
dire
les PCistes, trouvent ça lent etc, mais au moins c'est fait pour tu vois, c'est fait pour, le gameplay il est réglé pour, donc après on aime on n'aime pas, mais au moins c'est bien fait pour. Là non, et donc c'était pas du tout agréable à jouer.
On rappelle le nom?
Le Dual Strike.
Dual Strike
1999, il y a des gens qui ont
souffert. Voilà, si vous en trouvez dans une brocante, lâchez l'affaire.
Il y a peut-être des mecs qui ont perdu $60, genre, tu sais pas encore. Ça coûtait pas très cher encore, ça va, on s'en sort pas trop mal.
Est-ce que Microsoft a poursuivi dans cette belle lancée?
Mais bien sûr. ce n'est pas une vendetta, mais ils avaient vraiment un département d'accessoires très créatif pour remplacer ce fameux couple clavier-souris. Et donc en 2001, ils ont fait le moins pourri des bizarres. Ah. Ils ont fait le Strategic Commander.
Ah oui, il paraît qu'il était bien.
Et c'était en fait une plutôt bonne idée cette fois.
Donc je me rappelle de personnes qui le faisaient gagner sur RTL.
Et ouais, j'en ai fait gagner un paquet, mec. Je les payais pas cher. Et c'était en fait une manette qui était faite pour remplacer le clavier uniquement cette fois. Donc tu le jouais côté gauche ou côté droit selon si t'étais droitier ou gaucher.
Il était très gros.
Hein. Et voilà, tu posais ta main dessus et en fait c'était fait pour les RTS. Donc là, tu bougeais ta caméra en fait avec une espèce de grosse souris sur
une vision.
Une trackball, hein, tu veux dire?
Non, c'était comme une grosse souris qui aurait été montée sur un espèce de joystick situé sur une plaque. Et tu bougeais à droite, gauche,
comme ça, à droite. Et il y avait des trucs pour les ordres aussi, non?
Voilà, avec plein de boutons pour binder les ordres. Voilà, au bout des doigts. Exactement.
C'était plein de raccourcis.
On vous mettra des photos sur.
Non, mais ça, c'était bien foutu. Par contre, il a pas du tout bien marché. Il a pas du tout bien marché, à mon avis.
Mais les gens se sont dit.
Parce que je l'ai vu très rapidement à la Fnac, soldé à genre 20 euros.
Mais bien sûr, Parce qu'en fait, tout le problème du jeu, c'est c'est bien, c'est une bonne idée, mais pourquoi je vais claquer 60€
alors que j'ai un clavier?
Alors que j'ai un clavier. Si tu vois, c'est là où ils sont plantés, quoi. C'est là où ils ont jamais réussi à imposer ce genre de truc. Et après ça continue parce que sur PC ça ne s'arrête jamais. on a eu des accessoires. Bon, alors après je mets de côté tout ce qui est gros joystick pour les simulateurs de vol, etc., qui répondent à un besoin spécifique. Là on a été très loin,
et là ils sont bons en plus,
là il y en a été très très bon. T'as Saitek qui fait un truc qui s'appelle l'X52 et dérivé maintenant, qui est pas trop cher et qui est vachement bien. Et t'avais donc le Otas Cougar qui est fait par Guillermo Trossmaster.
Le Otas Cougar.
Otas c'est le nom, c'est des systèmes d'armes sur
les très bien Ninjas. Et Cougar c'est un grrr.
Cougar c'est grrr, tu vois. Voilà. C'est le nom des trucs comme ça. Et là, il est tout en métal. Le truc, il vaut je sais pas, 1200€.
Pardon.
Non, je te jure, c'était hyper cher. Combien c'était? Je me rappelle plus du prix, j'ai un trou, j'aurais dû le noter.
Alors,
c'était super
en comprenant
cher.
L'inflation, monsieur, ou pas? En euros constants ou pas?
Oui, non, mais là, si on parle du pouvoir d'achat, il y avait un problème avec ce joystick. Et là, de nos jours, ça y a encore des trucs très, très bizarres. T'as une boîte qui s'appelle Z-Board, qui a sorti plein de claviers, le Merc, le Flamme, le machin. Et Z-Board, c'est une boîte qui fait des claviers où tu changes, en fait, à une base avec des touches sous les touches du clavier, tu l'enlèves selon le jeu en fait et tu redéploies sur ce clavier.
C'est bien
mécanique.
Un truc qui se plie en deux et il y a un truc World of Warcraft exprès.
Exactement.
Ouais, ça je m'en souviens, mais ça fait des années aussi. Hein.
Ça
c'est
fait
pas récent du tout.
Ça fait 4 ans que ça existe, mais ça continue. Il continue de sortir des trucs, etc. Sauf que le clavier, enfin une fois que t'as tapé avec, des fois t'aimes bien taper avec un clavier quand même, tu vois, pour t'écrire. C'est une horreur, c'est une surmerde, c'est insupportable. Et
donc c'est pas très convaincant tout ça. Hein,
non. Et les seuls modèles. Mais en fait, qui sont des trucs qui fonctionnent, ça va être des vrais claviers qui sont brandés gamer, des souris qui sont brandés gamer, marketés gamer, et où là on trouve des bons produits. Mais ça reste des claviers, des souris.
Voilà,
tu vois,
c'est ça. C'est juste qu'ils sont beaucoup plus rapides, ils sont fins, ils sont allégés.
Le seul accessoire que je sauve de tous ces trucs.
Oh, attention!
Au secours.
Fais-moi rêver un peu.
Je pourrais vous parler Belkin aussi, qui a sorti pendant des années un truc qui s'appelle le Nostromo. J'ai reçu aujourd'hui même un communiqué de presse sur le petit frère, le nouveau, qui marchera pas plus, à mon avis. Hein. C'est une espèce de pavé numérique avec un stick analogique sous le pouce.
Ouais.
Tu peux mettre binder plein de commandes, etc. Pareil, ça sert à rien. Enfin, faut être.
C'est fait
fan.
Pour maqueter des magazines, ça.
Exactement. Ouais. Je pense que tu peux mettre des trucs comme ça dessus. Et le seul que je sauve, c'est un truc qui s'appelle qui est fait par une toute petite boîte dont le site web aujourd'hui d'ailleurs ne marche pas très bien. Je sais pas si
c'est dire pour les accessoires.
Ouais, tu m'étonnes. Et c'est donc un truc qui s'appelle l'Ergodex DX1 pendant que le téléphone d'Angel nous parle. Non, il ne peut pas venir. L'Ergodex DX1, c'est un truc en fait où ça avait une plaque. Alors ça, le concept est top. Ergodex, c'était une plaque et le concept est mortel. C'est vraiment, tu fais ce que tu veux parce que t'as cette plaque et t'as des touches que tu colles.
Ah oui, à l'emplacement que tu voulais,
exactement.
Etc. Voilà. Tu
et
fais
là,
ton
tu
truc
fais
ultime.
Exactement ce que tu veux. Et donc d'accord. Ça a cartonné chez les joueurs de MMO en revanche, et ouais. Les joueurs de Counter Strike qui ne jouent qu'à ça, etc. Et en plus, c'est séparé de ton clavier, donc tu peux le mettre sur le côté, faut avoir un peu de place sur le bureau. Et ça, ça marche vachement bien. Ce qui marche vachement moins bien, c'est que ça coûte 150$.
Bon, avec le taux de l'euro actuel, ça va.
Oui, en ce moment, maintenant, ça va. Quand c'est sorti, c'est moins bien.
Écoutez, je m'engage avec tous les Français.
Moi, cela dit, moi, je me souviens du Sidewinder à retour de force. C'était déjà 1000 balles.
Non, c'était super cher, ça. Mais c'était bien, en revanche. Quand l'achetais, t'étais content. L'Ergodex, c'est le seul truc un peu novateur, en tout cas sur PC ces dernières années, qui n'est pas rangé directement dans la catégorie. Grosse merde.
Bah, ça nous fait plaisir au bout de 10 minutes 23 de podcast. Une bonne nouvelle, merci.
Et donc là, maintenant, je dis que j'ai fait quand même pendant 7 ans la rubrique accessoire de certains magazines et j'en ai vu de la daube.
Si, moi j'ai fait la même sur console. Hein.
Justement.
C'est ton tour.
Ah non, mais non.
Ah
mais,
bah si.
Non, y avait rien.
Écoute, cette transition me paraît tout trouvée. Nous allons donc désormais, après avoir fait une sorte de panorama incroyable comme ça du monde de l'accessoire et de la manette.
Ah oui, là,
souvent à chier du monde du PC. Bah, on va s'intéresser au monde de la console qui, par contre, a eu une productivité assez incroyable. Autant productif que pas toujours très réaliste dans sa qualité. Bon, quantité et qualité
pas optique,
sont pas toujours.
Pas,
voilà. Mais enfin, souvent très créatifs.
Ils ont été beaucoup plus loin dans le budget.
Ah oui, on sent que c'est des Japonais derrière. Et ils ont voulu faire des trucs très innovants.
Mais
quitte à ce que
là,
ça marche pas ou n'apporte pas grand chose.
On fait le jeu. Et
autour
on sort
de la manette
qui va avec, voilà.
Voilà. Alors justement, on va repartir un petit peu dans le passé, hein, retour dans les années 80, avec du côté de chez Nintendo justement, pas mal d'accessoires assez intéressants, comme le Power Glove. Est-ce que vous vous souvenez du Power Glove, cette espèce de grand truc qu'on se mettait sur l'avant-bras et on
guidait un gant sur lequel il y avait une manette.
Ça a été repris dans des films, dans des clips.
Exactement.
Et tout, ouais. C'est au square, c'est genre.
Mais alors. Et c'était quelque part, c'était un peu le début aussi de la Wiimote parce que il fallait poser des capteurs sur les bords de l'écran.
Ah ouais.
Ouais, c'était absolument pas précis.
Ça marchait
précis.
Super mal en fait. C'était en bougeant les doigts, que t'appuyais sur les boutons en fait.
C'est ça. Ça avait l'air chiant, mais
ça marchait
c'était
pas,
à chier.
Ça marchait pas très bien. Non.
Voilà.
Mais c'est comme tous ces. Enfin, il y a eu d'autres accessoires à l'époque de la NES, qui étaient genre super technologiques et tout, qui impressionnaient tout le monde et qui servaient pas à grand chose. Et mon préféré, moi, c'est Rob le robot.
Mm-hmm. Alors, parle-nous un peu de Rob le robot.
Mais on jouait avec Rob le robot.
C'est ça. Moi,
exactement.
Interrogation. Et tu vas voir que oui.
Ah mon Dieu.
Le principe de Rob le robot, c'est qu'en fait, tu pouvais jouer à deux, même quand t'étais tout seul. Et t'avais ton petit buddy à côté de toi.
Tu n'as pas
dit qu'il est mes amis imaginaires.
Faut pas oublier que le jeu vidéo c'est un truc d'autiste, il paraît. Donc tu avais ton petit Rob le robot et qui t'ouvrait des portes dans le jeu et qui en fait prenait simplement des espèces de petites toupies qui faisaient tourner à toute vitesse. Tu mettais une manette devant Rob le robot,
toupies,
il posait la toupie sur le bouton, qui appuyait sur le bouton de la manette et ça t'ouvrait la porte bleue ou la porte rouge selon le bouton quoi. Mm-hmm. Et il regardait l'écran et il savait quelle porte ouvrir en fait. Mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, même sans Rob le robot, il suffit d'avoir la deuxième manette à côté de toi et d'appuyer sur A ou sur B.
Oui, mais alors c'est soit
ça servait à rien,
c'est
mais c'était ultra technologique.
Soit tu joues le jeu, soit tu ne le joues pas.
Voilà. Et moi, j'étais à fond, évidemment.
Et quelque part, c'est un peu le précurseur de Wally. Et puis c'est le précurseur de Wally.
Je le voulais tellement.
Mais en plus, il a une pure gueule et aujourd'hui, je l'ai encore. Il est dans ma bibliothèque, il sert juste à la déco.
Et parfois,
oui, j'ai un sens pointu de la déco.
Effectivement.
Et il est là et voilà. Je l'aime. Et alors attendez, parce qu'il y en a un autre sur NES. Alors on en parlait tout à l'heure avant ce podcast. Le
Family
le,
Trainer.
C'était le tapis à la Dance Revolution.
Tiens,
vrai, avant l'heure.
L'accent anglais du gars là.
Tu peux répéter ça.
Family Trainer.
Ah ouais, ça doit être ça.
Oh, arrêtez, c'est pas mal, merde.
Donc, c'était un tapis qui avait deux faces avec plus ou moins de capteurs d'un côté ou de l'autre, et puis ça te permettait de jouer à des jeux, et notamment des jeux où tu devais courir, sauter par-dessus des rondins, etc. Et c'est assez marrant parce que justement Nintendo va ressortir là
une
au
édition
Japon,
sur Wii.
Voilà, sur Wii va ressortir Family Trainer, pareil, avec toujours le jeu où tu sautes par-dessus les rondins de bois, etc. Sur un petit tapis sur lequel tu pourras.
Tu m'étonnes, attends, Family, ouais, c'est bon ça, Trainer, check. Oh, c'est bon ça, check. Allez, on y va.
On est d'accord. Bah justement, on va voir que Nintendo a inventé pas mal de choses. Vous allez entendre parler aussi de Nintendo en fin de podcast, c'est une petite surprise, on vous en dit pas plus. Mais. Avançons un petit peu, occupons-nous d'autres éditeurs, parce qu'il y en a un, par exemple, du côté de chez plus Sony, à cette époque-là, c'était Namco, qui a été très très prolixe en style de manette surréaliste. Mmh. Lancement de la première PlayStation.
Voilà, Ridge Racer.
Ridge Racer, l'arrivée du NegCon.
NegCon,
qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça reprend un peu un concept de manette.
Strike.
Du Dual Strike. Donc,
en fait, c'était une manette analogique, en fait. Le truc, le principe, c'est que donc elle pivotait sur un axe, donc les deux parties. pivoter dans le sens opposé sur un axe.
Et puis faisait un petit bruit.
Et ça te permettait en fait de reproduire, de tourner plus ou moins fort le volant quoi, dans le jeu.
Ouais, mais c'était complètement perturbant en fait. Au final, on faisait des trajectoires droite, gauche, zigzag.
Dans mes souvenirs, ça fonctionnait assez bien, mais aussi c'était assez déroutant.
Le problème, c'est que tu tournes en vertical, enfin, t'as un mouvement vertical.
Alors qu'on a envie de tourner en latéral quand même.
Voilà, et puis cela dit, tu pouvais prendre la manette à la verticale, t'arrives l'air d'un con, et ça devait pas être très pratique, c'est sûr.
En même temps, tu téléphones avec un N-gage, donc bon.
Certes.
Ouais, non, on peut pas te croire en termes d'ergonomie, Julio, tu le sais.
Eh ben justement, Namco ont pris en compte ce genre de petites remarques, latérales, verticales, etc. Et ont sorti pour le Ridge Racer 4. Toujours sur PS1, une autre manette, une sorte de manette plus aboutie, du Negicon. Là, c'était le Joccon, qui alors cette fois incluait une espèce de... Comment on pourrait dire, de petites surfaces rotatives au cœur d'une manette un DualShock, une sorte de disque.
C'était comme un petit bouton de volume en fait.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
C'est une molette.
Alors
une
tu peux considérer que c'est un volant de.
Alors donc en fait c'était comme Arcanoid en arcade à la base.
Exactement.
Ou...
C'est ça.
Voilà. Ouais.
Sauf qu'on devait mettre son pouce sur le côté, alors du coup tourner à droite et à gauche.
C'était de la merde.
Personne n'en a un souvenir ému, hein, je crois. Moi, j'ai essayé vite fait. T'es vachement mieux, les
manettes de base. Surtout qu'en plus, c'est sur PS1 qu'ils ont ressorti le premier modèle de DualShock. Mm-hmm. Avec les deux sticks analogiques. Mm-hmm. Parce qu'au départ, il n'y en avait pas.
Mm-hmm. Et là, ça tuait.
C'est marrant d'ailleurs, parce que le stick analogique, en fait, c'était.
C'est Knights.
Alors, sur console au départ, voilà. C'était beaucoup console. Plus vieux que ça. Et sur Apple II, tous les joysticks étaient analogiques. Arnaud.
Toutes les consoles, quand on jouait, quand on était gosse, sur les consoles où il y a les jeux intégrés, les Pong, etc., c'était de l'analogique en fait. Mmh. Tout ça, c'était de l'analogique. Donc, le Vectrex qui avait le meilleur stick analogique
de l'histoire de l'humanité.
Exact. Putain, merci Angel qui vient de me souffler ça en fait. Parce que c'est vrai, j'avais complètement oublié ça. La manette du Vectrex, elle était extraordinaire.
Laisse tomber, elle démontait tout.
C'est clair.
Ah ouais,
voilà.
À fond.
Voilà, maintenant je m'en vais. Je viens de me
reprendre. Ah ouais, ouais, mais là, on peut partir.
Mais on peut partir, on a tout.
Vous voyez les yeux de CAF.
Ah, mais c'était fantastique cette
bonheur.
Manette, c'était un.
Et le mini stick, il était mortel. Voilà. Et les quatre boutons étaient magnifiquement alignés.
Et voilà.
Et bah, c'est de ces moments-là où what the fuck.
C'était fantastique. C'est vrai que cette manette. Bah, j'ai complètement oublié. Exact.
T'as l'impression que tu t'as revu une ex il y a 15 ans.
J'en ai une.
Et qui est toujours bonne.
Ouais, c'est ça. Non, qui est encore plus bonne qu'avant. Et trop de bonheur. Et t'hésites à aller lui parler.
Il y a une ouverture.
Putain, c'est beau.
Extraordinaire.
C'est beau ce qui se passe dans les podcasts.
Râle avec Trek, c'est fou. Voilà quoi.
Trop d'émotions, je crois. Bon, on continue avec nos amis japonais sur la console. Désormais, on quitte un petit peu l'univers de la manette à proprement parler, avec une sorte de listing d'accessoires assez improbables qui servaient cette fois-ci purement le gameplay des jeux avec lesquels ils étaient vendus ou accessoires pour lesquels il fallait se procurer. Mais du coup, là, c'était en gros, l'utilisation était unique. C'était vraiment avec les jeux. Je vais vous dire de quoi il s'agit, vous allez tout de suite comprendre. Si par exemple, je vous parle de la série des Beatmania.
C'est le début des grands jeux musicaux, des
la manette de Beatmania,
c'est pas une manette, hein, c'est une espèce de pote de platine.
T'as une platine sur le côté et t'as les boutons. Voilà. Je l'ai revu sur une excellente chaîne qui s'appelle No Life il y a pas longtemps. Et en fait, ce truc là,
c'est le premier Beatmania.
C'est le premier Beatmania.
Après, il y en a eu.
Ah, il y en a eu plein d'autres.
Mais quand on voit les jeux musicaux que je connais maintenant, etc., qui sont grand public et qu'on voit Beatmania, la manette et le jeu qui va avec,
c'était rigolo. Beatmania,
faut être complètement autiste pour y jouer.
Oui, et à la fois, c'est toujours le même principe, c'est validé. L'idée, 2-3 touches en rythme.
Ah non, mais
c'est juste que le packaging est vachement.
Ça descend
les notes. Les modes extrêmes, machin.
Il y a des morceaux avec 40 notes à la seconde. 40 notes, seconde.
Quand tu vas dans une salle d'arcade au Japon,
ouais,
tu vois un mec jouer
YouTube,
à la guitare.
YouTube, vous tapez Bemani, machin, et c'est monstrueux.
C'est juste n'importe quoi.
Parce que c'est perfect.
En fait, t'as les mêmes avec Dance Dance aussi.
Alors justement, là, c'est encore une autre veine. Juste, on finit avec le côté accessoire pur plastoc. Donc, on connaît tous Guitar Hero, vous connaissez tous, mais enfin, quand même, n'oublions pas Guitar Freaks, toujours de Konami. Précurseur, quand même, avec sa petite guitare, avec ses trois petites touches, c'est juste exactement le même concept, moins bien habillé, moins international vieux, dans les bandes son.
C'est ça, c'est au niveau de la bande son, c'était toujours un peu cheap, quoi. C'était des reprises réorchestrées, bon tant pis.
Ces jeux musicaux à la base, c'est les créas en fait. Donc ça parle qu'aux mecs qui ont envie de jouer au jeu. En fait.
C'était super japonais, quoi. Le génie de Guitar Hero, c'est de l'avoir occidentalisé.
C'est ça.
Non, mais avec des morceaux que tu connais, des morceaux de musique que tu connais.
Occidentalisé,
non. Non, même pas, parce que les autres, c'est même pas des musiques japonaises, c'est des créas pour le jeu.
Ah, ça dépend.
Il y avait
des reprises de Mazinger, de Metal Gear aussi, et puis il y avait des titres japonais de J-pop japonaise surréaliste.
Mais
quelque part, moi je me demande quand même dans quelle mesure ils se sont pas fait des procès les uns les autres, parce que enfin en tout cas
il y a eu des arrangements à l'amiable.
Pareil.
Bah ouais, mais je sais pas si tu peux déposer ce genre de concept partout.
Si, tu peux déposer.
Je vais faire un jeu avec une guitare, ça s'appellera Guitar Freaks. Le but c'est de valider des touches, machin. Bah visiblement non, parce que quand on voit Rock Band et Guitar Hero, quand même, qui sont juste un peu préparés, sauf qu'il y a plus d'accessoires dans l'autre.
Bah oui, mais si tu, voilà, c'est ça, c'est que si tu t'engages sur cette voie-là, n'importe quel Rhythm and Games actuel, en grosso modo, c'est une copie de ce que Konami faisait
et
à l'époque.
N'importe quel concept
ah bah ouais,
de
ça,
jeu.
C'est le problème des autres. Hein. Ils avaient lequel créer avant.
Je vais faire un truc qui se passera sur l'écran.
Tout est pris. Hein.
Grâce à une manette ou un truc, ça fera bouger des choses à l'écran.
Oui, enfin, on peut être plus précis que ça.
Oui.
Dans la description.
Ok, oui, c'est
tu vois ce que je veux dire.
Ouais,
enfin bon, donc le guitare, il y a aussi des taiko, hein, taiko no tatsujin, les espèces de tambours japonais.
Meilleur en Jap qu'en anglais, ah, c'est dire. Hein.
Ouais, c'est... je me sens bien. donc on tapait donc sur son petit tambourin. Il y a aussi un truc incroyable. Là, c'est une sorte de tapis avec des capteurs laser, je sais pas quoi. C'était pour une danse japonaise obscure, le parapara. C'est ça ? Ouais, où on doit faire des mouvements avec ses mains, une espèce
c'était
de chorégraphie.
Obscur, enfin obscur.
Tectonique,
ça cartonnait. Enfin, non, mais ça cartonnait au Japon, comme la tectonique cartonne en France, quoi. C'était vraiment pas obscur du tout. C'était la danse ultra à la mode à ce moment-là.
Oui,
quoi.
Au Japon.
Au Japon, bien sûr.
Ouais, voilà.
Ah ouais, mais donc, c'était. Mais voilà.
Difficile
mais pas obscur,
de l'exporter.
On a noyé tous les mecs qui ont essayé d'exporter cette merde.
Ouais, mais bon, que de la même manière que la tectonique, c'est pas vraiment exporté.
D'ailleurs, là-bas, ils noient tous les mecs
parce que c'est
dansé,
c'est le voguing.
Mais il faut.
Oui,
et ça cartonne.
Oui, et puis il y a tellement Melbourne Shuffle et compagnie quoi. Enfin, tu vois,
Melbourne Shuffle c'est quand même différent.
Non, mais t'as plein de dérivés. On va pas rentrer dans cette discussion.
C'est différent.
Je refuse.
Bah si, parce
refuse.
Que le voguing et la tectonique
non.
c'est pareil.
Non, je
c'est vraiment
chose.
Pareil. Mais bon, ça c'est un autre. Ceci est un autre débat. Effectivement. Donc on est sur le listing des tapis. Alors donc le parapara. Il y a aussi donc Dance Revolution. Enfin les Mega Mix, Third Mix, Youpla Mix. Bon alors là avec les quatre touches, les quatre croix, les quatre directions qu'il faut valider avec ses pieds. Ça, c'est donc une fois de plus, c'est venu de l'arcade, c'est une transposition directe avec un petit tapis en plastique.
Je
ça
suis contre, ça
cartonné.
Fait, ça fait faire ça du sport, j'ai toujours été contre.
Ça a tellement cartonné qu'il y a plein. On l'a vu partout, on l'a vu qu'il y a Mario qui danse, il y a eu donc tous les jeux Konami.
Il y a eu des licences avec le livre de la jungle.
Avec
tout,
Star machin. Academy, enfin. Ouais. À ne plus savoir qu'en faire, mais ça a plutôt très bien marché.
Et ça continue. Je crois. Et ça a développé ouais. aussi des communautés de joueurs qui jouent beaucoup à ça dans les conventions et tout, et qui sont des ouf de ces jeux-là.
Et qui ont été repris hein, dans des clips de Madonna. Il y a des compètes, il y a des battles de Dance bah ouais. Dance. Enfin,
il y a des trucs super impressionnants. Les vrais champions de ça, c'est comme les aliens qui jouent à Starcraft encore ouais. en Corée, quoi. Je veux dire, c'est pareil. C'est des ouf.
Enfin, c'est comme plein de trucs. Hein. T'as des mecs qui font du skateboard et puis t'as des mecs qui font du skateboard.
Ah oui, oui.
T'as le bon chasseur.
Ouais, la différence, c'est qu'il y en a qui font du skateboard et d'autres qui font du skate.
Ouais, ok, d'accord.
Parce que le skateboard, je vous en prie, mais enfin bon, voilà. Quoi.
Pardon.
Ok, donc ça, c'est la zone, les tapis, les trucs en plastique. Après, enfin, après, non, avant aussi, hein, il y a tous les accessoires. Les flingues, par exemple.
Ah oui, Namco
donc,
aussi, on a fait beaucoup.
Les qui ont pas mal évolué aussi au fur et à mesure. Des années, des époques. Au début, c'était juste une sorte de phaseur, un pointeur laser. Après, il y a eu une petite croix qui a
même
été
pas,
intégrée.
Même pas, c'était infrarouge.
Oui.
Enfin, même pas infrarouge,
non,
d'ailleurs.
Non,
c'était juste lumineux.
D'ailleurs, c'est une détection du signal. Et d'ailleurs, c'est pour ouais. ça que ça n'a jamais marché sur les télé 100 Hz.
C'est ça.
Voilà.
Après, il y a eu l'arrivée aussi des sticks, des croix directionnelles sur les flingues. Par exemple, on pense à...
Qui n'ont jamais servi à rien.
Qui n'ont jamais servi à grand-chose, effectivement.
Sûrement à jouer à Game Survivor pour toi, mais à part ça...
Non, c'est aussi oui, pour sélectionner dans les menus c'était... sans revenir sur ton paddle de
c'est
base.
Ça. C'est ça.
C'est ce qui, ouais. pour ça, d'ailleurs, que
tu
as des
Attends, au départ, tu choisissais...
Sur les instruments en... sur 360, mm-hmm. sur le Rock Band.
Mm-hmm. Bon, enfin bon, ça n'a jamais. Ça a connu un succès d'estime à chaque fois. Mais bon, c'est pas jamais imposé de manière très grand public.
Même tout ça, pas... en fait, c'était des adaptations de
bandes arcade.
Voilà, de bandes arcade.
Tout à fait. Tout à
c'était
fait.
La transposition de jeux qui étaient disponibles en salle chez soi.
Mm-hmm.
À une époque où ça avait encore beaucoup de valeur de dire voilà, c'est l'arcade chez toi, mm-hmm. tu peux faire comme à la salle, etc. Mm-hmm. C'est par la suite avec tout ce qui est. Les jeux musicaux, il y en a eu qui ont été développés spécialement pour les consoles. Il y a eu d'autres trucs spécialement développés pour les consoles. On peut pas ne pas parler, par exemple, en termes de manettes. De celle de Teki dont on a déjà parlé, style Battalion.
Ouais, style Battalion, cette
où,
manette
où là,
gigantesque.
Typiquement, c'est l'exemple ultime du mec qui se dit voilà, je vais faire une super grosse manette avec plein de boutons géniaux.
Qu'est-ce que je vais faire après comme jeu?
Et je vais faire un jeu avec, mais après la manette, voilà. et c'était n'importe quoi ce
et
truc.
Là, c'est la enfin, manette c'était... unique, hein. Enfin, c'est la manette au jeu
voilà,
unique.
Donc c'était trois sections pour ceux qui l'ont jamais vu. Il y avait trois sections à monter, une section de gauche avec un gros joystick, section de droite avec un autre gros joystick, et au milieu, plein de boutons. Et avec
et le pire c'est qu'il y avait pas
un bouton eject sous une petite coque en plastique.
C'est ça.
Voilà.
Sauf que quand tu faisais ça, tu revenais vraiment à zéro au début du jeu.
Ouais.
Ouais, et il zappait ta sauvegarde.
Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'était vraiment la fin de la fin.
Hein ?
Il y avait pas un pédalier, non ?
Avec les petits boutons d'allumage et tout à faire en séquence au début du niveau pour mettre à feu ton espèce de robot dans lequel tu pilotais. Enfin bon, c'était énorme comme accessoire, quoi.
Ça, c'était
dans tous les sens du terme, d'ailleurs.
Effectivement gigantesque. Après, il y a eu des gros délires aussi concernant les manettes. On se rappelle de la manette Logitech pour la PlayStation 2, intégrant une sorte de grand clavier comprise entre deux pads analogiques.
Exact.
Comme en si fait, la manette s'était élargie comme un basset.
Alors vous allez rigoler, mais
je l'ai.
Je vous jure.
Mais c'est pas le pire. Dans quelques secondes, on va parler d'une autre manette que
alors,
t'as.
Alors là, pareil,
ce sera beaucoup plus shameful.
Non, mais là, alors, celui-là, je l'ai pris pas du tout pour l'utilité PS2, mais parce que j'avais donc un PC, je me disais, tiens, je branche le clavier en USB et je pourrais piloter mes DivX peinard de mon plumard.
Sauf que c'était un
parce qu'à l'époque il y avait pas de clavier encore Bluetooth et compagnie quoi, donc non c'était un mini clavier USB et il était ultra compatible chez il m'a servi qu'à ça.
Parce qu'en fait à la base Logitech l'a sorti uniquement pour FF11 et l'autre jeu que tu aimais bien, Julo.
Phantasy Star Online.
Exactement.
Mais en fait c'est des conneries, enfin c'était juste un mini clavier USB et avec une coque, un truc qui s'enfonçait
bon esprit à la limite, tu vois, parce que effectivement la communication vocale, enfin à l'époque,
oui,
je veux dire,
compliqué,
c'était un peu du rêve, donc c'était pas mal.
Alors j'ai essayé de jouer avec ça. En plus d'avoir l'air super con, c'était super pas jouable.
Ah ouais,
parce que vraiment tu te retrouves, enfin imagine-toi ton paddle que t'étires comme
non,
ça
mais
à mort,
non mais c'est même pas ça, c'est qu'en plus tu pars avec un handicap, c'est un paddle Logitech que t'étires.
Et donc là... j'ai une souris Logitech, elle est très bien.
Ah
non, hein.
Souris carton.
Ah d'accord, très bien.
En paddle, c'est très, tu vois.
Ah oui,
c'est fluctuant. Moi j'ai acheté avec mes sous les dernières souris gamer Logitech que j'aime beaucoup, voilà, tu vois. Chacun ses choix.
Très bien, très bien. On parlait donc de manettes et pour conclure un petit peu cette séquence là, justement Angel, je crois que tu peux garder le micro parce que j'ai envie de rendre un hommage, à une manette.
La plus belle manette de toute la collection.
La manette, Angel.
C'est la manette du Wu-Tang Clan. Et là, ça démonte tout.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette manette de l'espace?
Alors, il y avait
sa spécificité.
Aucune.
Ah, la
non,
forme.
Attention, j'introduis. Il faut laisser déjà les belles histoires, il faut bien les raconter. Mm-hmm. Alors, il y a un jeu Wu-Tang qui est sorti, je sais plus.
Un jeu de baston.
De la merde.
Oui. Toi qui le dis.
Et pour fêter ça, ils avaient décidé de sortir l'accessoire ultime, à savoir une manette PS1 en forme de W. Comme le W, exactement, c'est une copie conforme du W du Wu-Tang Clan. Ouais.
Mais elle était jaune citron, non?
Non, alors elle était marron caca. Ah bon? Elle était marron caca et la croix directionnelle était jaune.
Ah.
Oh la vache.
Alors on la tenait comment?
Je crois. Alors on la tenait comme tu pouvais.
Elle était très épaisse en plus, dans mon souvenir.
Elle était ultra belle, comme le W du Wu-Tang, quoi. C'était super injouable, hein. Ça servait à rien. Je me souviens, on en avait reçu deux à la rédac.
Et avec tu penses que ces attachés de presse qui ont voulu nous faire plaisir à ce on va le remettre d'autre côté.
Ouais. Alors,
pour se faire fracasser 10 ans après.
Il y en a une.
c'est beau quand même.
Non, et il y en a une, dès que j'ai vu l'objet, je me suis dit, je la prends en collector. Et celle-là, elle restera toujours à mes côtés. Tu vois, en gros, c'est ce que je dis. Et
vous noterez quand même qu'Angel chopait à peu près tout ce qui passait. Hein.
Oui, c'est ça. Oui, mais c'était. Alors, il y en a qui volent des ramettes de papier et des crayons.
Moi, des post-it.
Ouais, voilà, des post-it. Moi, je volais des paddles.
Qui volait des
et
post-it
donc,
je sais pas. Parce que là, c'est la loose quand même.
Et donc, par contre, le deuxième exemplaire, je me souviens, avec Greg, on avait voulu faire un test de résistance.
Ouais.
Et c'était un lancer contre le mur.
Et elle a perdu.
Ah ben, un lancer contre le mur, elle a explosé. Par contre, je m'en souviens, on s'est dit, c'est vraiment de la merde, non seulement en qualité, mais en résistance, parce qu'elle a explosé en 20 morceaux au moins.
Caf,
moi
je veux réagir.
J'ai juste un petit morceau de bravoure, ça me fait penser à la manette du Wu-Tang Clan. Mm-hmm. C'est qu'à une époque de ma vie, j'étais payé pour faire des focus group, tu sais, les constructeurs qui te donnent des sous pour avoir des avis éclairés, etc. Mm-hmm. Et donc, Logitech, encore et on avait fait un truc pour eux, pour les premières souris gamers, ça n'existait pas à l'époque. C'est au moment où ils étaient en train de comprendre qu'ils vendraient jamais un accessoire pourri aux gens et qu'il fallait vendre la souris, brander la souris pour les joueurs. Et les mecs, ils ont fait des focus group, ils ont payé des gens, etc. Et c'était le début de Quake et tout le monde leur a dit il faut une roulette pour changer les armes et tout. C'est hyper important et c'était le début, la roulette c'était high tech, tu vois. Et là donc en fait non, ils ont fait des focus group en Suisse et les mecs ils nous ont répondu non, mais en Suisse ils nous ont dit qu'en fait les trois boutons c'est vachement mieux, c'est plus léger. Et là ils ont sorti la manette gamer avec trois boutons hyper légère qui en fait était commercialement un restockage, changement de couleur d'une coque qu'ils avaient déjà avant. Et bah pareil à la Fnac, je crois qu'ils les donnaient.
Ah ouais, laisse tomber.
Ils en ont jamais vendu, mais c'est hallucinant quoi. C'est l'histoire de l'accessoire PC. Des fois, il y a des gens, ils ont juste raté le focus group en question, tu vois. C'est pas grave, c'était sympa pour l'échec, les mecs.
La manette du Wu-Tang, les gars. l'accessoire ultime du joueur je veux console.
Je veux la photo sur le site.
Oh, c'est fantastique.
Bon, juste avant de vous poser une question, messieurs, concernant les manettes directement, parce que je sens qu'on va les oublier sinon. Rappelez-vous aussi une espèce de... On parlait de skate tout à l'heure. Il y avait une board aussi, un espèce de gros truc, une espèce de fausse board de skate sur lequel on pouvait mettre avant, arrière, qui était sorti à l'époque de Tony Hawk.
Non, je ne l'ai pas. Ça, j'avais même pas envie de le voler.
Bah, elle était énorme.
Mais c'était
injouable. Mais on tombait à chaque fois.
Pourri.
Bah, même des skateurs.
Et à l'époque, voilà, Jean Santoni, qui pourtant était une sorte de Rodney Mullen, qui s'appelle comme ça, non, c'est ça. Ah, il a pas passé un seul lit, rien, quoi. C'était vraiment trop de la merde.
C'était une catastrophe. Dans la même idée, il y avait aussi un espèce de tapis avec des capteurs pour se battre, des capteurs de combat, voilà. Où
on s'en souvient aussi, c'était injouable.
Les coups de pied, c'était géré par terre, donc avec les manettes.
Ouais, on avait des espèces de faux trucs dans les mains.
Et attention, c'était censé être compatible avec Tekken.
Au secours.
Pas jouable du tout.
Tekken, le truc où en fait c'est un jeu musical mais avec des gens qui se bastonnent à l'écran, quoi. Faut faire des séquences de boutons.
C'était surréaliste.
Il y a eu le ballon de foot aussi.
Ah oui, c'est ça, où on tapait dans le ballon de foot.
Ouais, compatible avec PES peut-être. Je ne sais pas. Ouais. Mais pourri aussi.
Et Libero Grande aussi à l'époque.
Oh, Libero Grande.
Ah ouais, Libero de merde.
Voilà. Donc bon, il fallait pas les oublier. Enfin, je pense que c'était nécessaire de leur rendre un bel hommage. Messieurs, maintenant j'ai une question.
Ah là là.
Il est temps, avant de parler justement de l'avenir des manettes, parce qu'on n'a toujours pas parlé en fait...
De mettre la clim sur on.
Voilà, ce serait bien. Des manettes à proprement parler, et surtout dans quelle direction est-ce qu'on va aller? Est-ce que les manettes seront
le
une fin en soi ou pas? Est-ce que... On va parler tout à l'heure un peu d'autres manières de jouer, avec Light Toy, avec Eye of Judgment, avec la petite caméra qu'il y avait sur la Game Boy. Mais avant ça, j'aimerais, pour vous, quelle était, à ce jour, la meilleure manette de l'histoire, celle qui regroupait à la fois les meilleures fonctionnalités, la meilleure ergonomie, celle qui s'intégrait le mieux et celle qui apportait le plus.
Tic-tac,
et là, ça va être
tic-tac,
chacun votre tour. Et je pense que Julo a envie de commencer. il est bouillant. Julo.
C'est ça, c'est le mot, bouillant. Non, je dirais... la manette PlayStation, tout simplement.
Alors, la première PlayStation.
Ouais, quand j'avais vu la croix de direction, j'avais surflippé. Mm-hmm. Et en fait, aujourd'hui, je pense que c'est la.
Parce que c'était pas une croix justement, c'était 4
boutons. Bah, c'est une croix, il y a juste un bout de plastique au milieu par dessus. Mais c'est pas 4 boutons en fait.
Non, mais quand tu la vois visuellement.
Ouais, quand tu la vois visuellement, tu croyais que c'était 4 boutons.
Non, mais tout à l'heure, on parlait justement de procès potentiel. On rappelle que pourquoi cette croix est segmentée, c'est parce que c'est Nintendo qui a déposé la croix toute simple qu'on connaît. Si on peut déposer une croix, messieurs, on peut probablement déposer un concept de jeu, quand même, j'ai envie de dire.
C'est clair.
Hein,
c'est clair.
Bah, parce qu'une forme, j'ai déposé la croix. Pff, ouais, super.
Pour bouger les là, Nintendo a quand même un peu tout inventé, quoi. Les boutons de tranche.
La vibration, le Rumble Pack.
Rendons hommage à Nintendo, mais quand même...
Donc pour toi, ce serait la première manette PS1.
Enfin, de l'actuelle, enfin, je veux dire, c'est la même.
Ah bah non.
Non, bah non, parce qu'au départ, il n'y avait pas les deux sticks analogiques.
Ah oui, elle ne s'appelait pas encore DualShock à cette époque. Ah non,
certes.
Bah parce que peut-être que certains vont dire la 6-axis.
Non, mais pour moi c'est la DualShock alors, d'une manière.
À laquelle
y a pas
de... Oh, tu ah bah il y en a 3 des DualShock, les gars.
Ouais. Non, mais c'est les mêmes systèmes derrière.
Bah, 3, pour moi, ce sera la 2. Hein.
Bah, moi, ça sera la 3 parce qu'elle est wireless.
Oui.
Ah là là.
Ok, donc pour toi, la première DualShock.
Ouais, ou la 2 ou la 3.
Celle où les touches, les espèces de sticks étaient enfoncées et non pas joufflues.
Non, surtout pas celle-là.
Ah bah alors tu vois on y arrive. On est passé de la première manette.
C'est pas la DualShock. C'est pas la DualShock.
Bonjour, bienvenue dans
c'est
ce débat d'autiste
avec
les deux sticks.
Elle était pas DualShock.
Alors la première DualShock.
Effectivement, elle ne vibrait pas.
Ouais. Et la DualShock, c'est celle justement qui avait les sticks bombés.
Ok.
Et après, depuis, elle a pas vraiment changé, sauf qu'elle est sans fil aujourd'hui.
Voilà. Et qu'elle intègre du 6-axis. Voilà. Et qu'elle n'avait pas 128 degrés de pression. Le premier comme sur la DualShock 2. Je vous rappelle, 128 degrés de pression. Allez me faire 128
degrés
de pression sur les touches.
D'accord, bon, je fais chier. Angel.
Moi, des pressions, il m'en faut qu'une. La blague pourrie.
Mon Dieu.
Alors moi tu vas pas voir, c'est la DualShock telle qu'on la connaît. Après vibration ou pas, je m'en fous. Si sexy, je m'en fous. Mais la DualShock. Et pourquoi? Moi, je vais donner une vraie explication parce que tu m'as cramé le cerveau du Julo. Tu vois qu'il regarde, il a le regard vide maintenant.
Attends, je vais le toucher avec ma mamouette.
Ah non.
Et en fait, tout simplement parce que c'est celle qui offre le meilleur compromis pour tous les styles de jeux, mmh. plus ou moins. Plus
D'accord.
ou moins tous les styles de jeux, évidemment. Il y a toujours des jeux où elle n'est pas forcément super bien adaptée. Mais elle offre quand même un super bon compromis. Là où, par exemple, la manette GameCube n'était pas du tout adaptée aux jeux de baston, etc. etc. Ouais. Quoi. Elle était très bien pour certains types de jeux, mais vraiment à chier pour d'autres, etc. Alors que du côté de PlayStation, c'est quand même un super bon compromis.
C'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont du mal à la changer, finalement.
Ouais, exactement.
Bah, le problème, c'est que faire mieux que ça, depuis qu'ils ont ajouté les gâchettes progressives sur les R2, machin L2. Mmh. c'est vrai que maintenant, bon, voilà, quoi, c'est pas...
Et sinon, juste une parenthèse, et sinon, en termes d'accessoires débiles, parce qu'on a sorti tous ceux qui étaient super ratés, super pourris, mais il y en avait quand même certains qui étaient réussis, dont les maracas de Samba d'Amigo, j'y tiens, j'insiste, qui était un super objet, qui marchait très très bien, et avec un concept béton derrière, voilà.
Et qui était plus fun que jouer à Samba d'Amigo que jouer avec des Wiimotes.
Je pense.
Enfin, c'est déjà, ça fait pas le bruit. Alors que l'autre, ça fait chic 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 chic. On le sentait vraiment.
Tu ne le sais pas encore.
Bah si, ils vont faire le bruit.
Mais tu es déjà mort.
Ils vont l'émuler en son, mais c'est pas le même plaisir.
Ce n'est pas gagné.
Ouais, c'est pas gagné non plus. Bon allez, on continue notre tour de table à repasser. Raon, ta manette Ultimate.
Moi j'ai envie de reparler quand même. C'est pas la manette Ultimate, mais ça l'était à l'époque.
Celle qui t'a marqué.
À l'époque, ça l'était. C'était le Speed King sur Atari ST et Amiga à cette époque-là. C'était une manette qu'on tenait en fait dans la main gauche.
Ouais.
Faut savoir qu'à l'époque, si je dis pas du tout, il y avait un seul bouton sur les manettes.
Ouais.
Et
je crois qu'il y a une version de deux boutons qui est sortie, mais après.
Ouais. Et en fait, on la tenait donc au creux de la main gauche avec le stick digital, hein, un micro switch sur le dessus de la manette.
Mm-hmm.
Donc on actionnait avec la main droite et les boutons étaient, le bouton était sous l'index. C'était une super manette, c'était une super idée en termes d'ergonomie pour l'époque, c'était juste fantastique quoi.
Elle était cette manette.
Ah, j'ai adoré moi. J'en ai pété deux ou trois, c'était très bien.
Pareil, je la déteste.
Bah justement, CAF. Et si bah tu détestais cette manette, laquelle aimais-tu ?
À l'époque, j'étais sur la concurrente qui était aussi une manette Konix, qui était la Navigator.
Mais c'était le même principe, elle se tenait dans la main.
C'était exactement le même principe, la Navigator.
Et ben pas du tout.
Gros naze.
Ah, pas du tout.
C'est toi le gros naze.
Mais parce qu'en fait, moi, ce que je détestais justement dans la Speed King, c'était que tu avais la main comme ça, enfin.
Paume vers le haut.
Paume vers le haut. Et en fait, je trouvais ça pas pratique du tout dans les jeux, alors que la Navigator, c'était comme si tu tenais un joystick en fait. Avec, je peux pas le faire parce que j'ai le micro. Comme quand je tiens le micro en fait, sauf que t'avais la manette sur le dessus comme ça si tu veux. Et donc, oui, tu avais la manette dans une main et tu bougeais le stick avec deux doigts d'autre côté.
D'accord.
Et c'était
elle était plus en hauteur.
Voilà.
Que...
Et ton bouton c'était une gâchette en fait sur le truc. Et je trouvais ça vachement mieux. Par contre, c'était ma manette préférée de l'époque. Sinon, je vais faire dans le classicisme absolu. Pour moi, la meilleure manette maintenant, ça serait la DualShock 3.
D'accord.
Par contre, je tiens à dire un truc, c'est que s'ils n'avaient pas complètement foiré leur croix de direction, la manette 360, il y avait des bonnes idées.
Mais grave, voilà.
Mais ouais, ils ont insisté trop sur certains trucs. Je pense qu'ils ont voulu faire trop bien pour les gâchettes, etc.
Parce que les gâchettes sont quand même vraiment mieux que sur la DualShock.
Elles sont carrément mieux. Mais sur certains jeux, elles sont trop justement accentuées, si tu veux. Elles sont pas assez bouton shoulder. Si et du coup, bon bah voilà. Ils ont les défauts de leurs avantages. En revanche, la croix de direction.
Même si sur le principe, de toute façon, ils sont inspirés de Sony.
Ah, mais c'est une réponse de base. Ils ont pas osé la réponse. C'est évident.
Améliorée parce que c'est vrai que les gâchettes sont vachement mieux foutues. Gâchette elle-même inspirée du paddle Dreamcast.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Elle était surtout inspirée de la manette Dreamcast, un truc cassette.
Ça, c'était bien.
Mais finalement, le paddle Xbox, c'est une sorte de melting pot des meilleurs trucs de toutes les consoles.
C'est surtout une évolution de la pompe qu'ils avaient commencé sur Xbox. Ils n'avaient pas osé y aller à fond. Et puis, au fur et à mesure,
en évitant les.
Allez, finalement, on va faire comme eux.
En évitant les brevets d'ergonomie et les machins. Les trucs, je trouve qu'ils ont fini par très bien s'en sortir parce qu'ils étaient quand même très très mal partis avec la première manette
que j'ai toujours, quelle horreur!
Voilà la taille d'un porte-avions.
Non, c'était une horreur. Mais sinon, non, mon joystick que j'aime d'amour, tout ça, c'était le pad Neo Geo, je tiens à le dire. Que j'avais modifié la manette, d'ailleurs, pas le pad. Hein, la manette Neo Geo. Parce qu'il y a aussi un pad Neo Geo. Qui est sur Neo CD et qui est au secours.
Et si on parle du cœur, moi je voudrais citer aussi la manette N64 quand même.
Qui est fantastique. En fait, parce que j'ai été quand même très loin, c'est que j'ai modifié des manettes Neo Geo en USB pour les mettre sur mon PC.
C'est quoi la manette N64 ? On va en revenir juste dessus quand on va y arriver. Justement, là je pense qu'il est temps de faire un petit historique, l'évolution des manettes justement. Et donc quand on va arriver sur la manette N64, tu pourras faire parler ton cœur, Julo.
D'accord.
Parce que quand Julo fait passer son cœur, il y en a pour un moment.
Puisque ce qui est marquant quand même, c'est de voir à quel point les manettes au fil du temps se sont complexifiées. À la base, on est parti avec un bouton, puis deux. Après, il y a eu l'apparition de boutons de tranche. Après, il y a eu l'apparition de sticks analogiques. Il y a aussi l'apparition donc, des vibrations. Il y a eu l'apparition de ports dans lesquels on pouvait mettre des VMU sur Dreamcast. Une espèce de petite carte mémoire avec qu'on pouvait transférer après des certaines données et continuer à jouer.
Une idée géniale, mais...
Tellement mal exploité.
Ouais, mal exploité.
Après, il y a eu aussi l'apparition donc, des manettes sans fil, des dou- double stick analogique.
Avant pour les, moi, les sans fil, je pense que c'est quand même juste la plus grosse révolution.
Ah oui, c'est vachement bien.
Ouais. Et avant les double stick analogique aussi, quand même.
Ouais, mais.
Avant les sans fil, il y avait quand même la vraie bonne idée de la première manette Xbox, parce qu'on l'a, un peu, on l'a détruit un petit peu. Mais
le câble qui se débranche, là.
Bah oui, mais c'était quand même une bonne idée.
Ça t'arrive souvent, toi, de marcher dessus quand t'es en train de jouer ?
Non.
Ça
m'a jamais servi. Je prends ma console quand je joue, non.
Bah je sais pas, ça m'a jamais servi, moi.
Mais ça a servi à plein de gens dont le petit frère passait devant la télévision pendant que le grand jouait.
C'est vrai. Il y a ce truc a servi comme le câble d'alimentation du MacBook aimanté, ouais, machin, les nouveaux là. Et ben c'est le MagSafe. Et ben ces deux trucs là. Voilà, quand on les présente, ça a l'air genre tellement con.
Enfin, ouais, bon, là, ça enfin bon, très honnêtement, moi j'ai préféré effectivement les vibrations. Parce mais que quand sûr, même, ça apporte un vrai plus d'ergonomie.
Star Fox 64.
Voilà, on le voit avec.
Pas d'ergonomie, de feedback.
Oui, de ressenti dans le jeu, donc d'immersion. On le voit avec le retour des vibrations sur le DualShock 3 qui ont été demandés à corps et à cri par les gamers.
Ouais, moi,
trouvé... Effectivement, c'est bien mieux parce qu'en plus, la manette est plus lourde, plus lestée.
Ouais,
et
ça,
du
c'est
coup,
vrai,
clairement, on la tient bien mieux en main.
Mais moi, j'ai trouvé ça, toujours trouvé ça cheapos, les vibrations, parce que sur PC, on avait le vrai retour de force.
Ouais.
Il fallait vraiment bastonner avec le joystick. Ouais. Et c'est... Mais c'est vrai que c'est bien. C'est vrai que c'était un plus.
Enfin, un retour de force sur un Metal Gear, par exemple, c'est compliqué.
Oh, pourtant si, quand il se prend des baffes et pif.
Donc il y a eu ça, oui, et donc
bah, un jour peut-être, un jour peut-être.
Non, il y a quand même eu une énorme avancée, il y a qu'à voir les kick-offs, le nombre de boutons pour jouer à kick-off sur les Speed King et un PES.
Rappelle-toi aussi ce qu'on arrivait à faire avec juste un seul bouton, hein, en même temps.
Mais cela dit, les petits jeunes de maintenant, hein, ils auraient du mal avec Speed King. Hein.
Et ben, clairement, après, une fois de plus, il n'y a pas vraiment d'ordre, mais il y a aussi, justement, avant l'arrivée des deux sticks analogiques et le premier stick analogique, la N64 là-dessus a été vraiment précurseur, avec l'apparition aussi des quatre touches sur le côté qui permettaient de faire évoluer la caméra. Et là, Julo, ton cœur va parler.
Non, mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi la manette N64, tu pouvais la prendre de plein de manières différentes. C'était un peu
une sorte de trident.
Voilà, tu
De trois manières officiellement, quoi.
Oui, c'est ça.
Une, deux, trois.
Mais par exemple, quand tu jouais à Turok, qui était l'un des premiers jeux, tu avais le choix entre diriger la caméra à droite, à gauche, en changeant juste le... Tu vois, tu mettais ta main gauche à gauche ou au milieu. Et
parce qu'il y avait trois branches sur cette manette, donc tu pouvais.
Le truc de la caméra, et puis surtout le stick analogique. Enfin, rappelez-vous, la première partie de Mario, voilà.
C'est extraordinaire.
T'avais tout compris tout de suite. Et, c'était,
et finalement, le fait qu'il y ait quatre touches au lieu d'un stick et qui permettait de recentrer la caméra par angle. Des trois quarts des quarts d'angle
en plus,
non, sur d'autres
jeux, par exemple,
jeux,
pour Zelda, jeux, c'était les items, voilà. C'était vachement pratique,
mais c'était bien parce que du coup ça, par exemple Mario 64, on y a rejoué il y a pas si longtemps que ça, les angles de caméra sont plutôt bien trouvés, hein. il y a moins de conflits de caméra que dans plein de jeux aujourd'hui.
Faut que tu t'occupes de la caméra, mais du coup tu prends le temps de l'aligner comme tu veux, et
c'était très efficace
et bien.
Tout à fait. Et donc la N64, manette N64, celle qui a fait arriver les vibrations avec l'ajout du Rumble Pack.
Voilà, c'est ça. C'était qui était vendu avec Star Fox, si je me souviens bien.
C'est ça.
Voilà. Donc les vibrations, c'était énorme aussi. Enfin, Nintendo, ils ont un peu quand même tout inventé sur les manettes, quoi.
Ouais, enfin l'analogique, c'est pas eux qui l'ont inventé. Hein.
Non, bien sûr. Mais qui l'ont vraiment popularisé au niveau de la console, on va dire. Et ben justement, on a vu donc une inflation du nombre de touches, de boutons sur les manettes, des sticks qui deviennent analogiques. Il y en a plus un, mais il y en a deux. Des vibrations. Et finalement, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de la Wiimote, on n'est pas à une sorte de moment charnière, de moment clé? Que peut-être on ne ressent pas encore complètement, mais qui va peut-être changer un petit peu la donne, et qui va faire que finalement les manettes vont se resimplifier, puisque l'usage va peut-être devenir différent, et que désormais pour faire des mouvements, on n'aura plus besoin que de les mimer. Et est-ce que justement à terme, et c'est là où j'ai envie de vraiment d'ouvrir le débat sur l'avenir des manettes, est-ce que à l'image de ce qu'on voit avec l'arrivée de Light Toy, avec ce que ça fait avec par exemple Eye of Judgment, où on place ses cartes, voilà, on a vu aussi une vidéo récemment qu'on a postée sur gameblog.fr d'Espagnols qui font des démonstrations où justement il y a une détection de n'importe quel objet qu'on peut avoir sous la main qui est détecté très rapidement et qui du coup permet de les émuler comme si c'était une raquette de tennis, un ballon de foot, un volant de voiture.
Itoy fait un peu ça dans les jeux qu'on avait vu au PlayStation Day avec le jeu de Pom Pom Girl ou le jeu avec l'épée. En fait,
mais jusqu'à présent c'était des objets spécifiques et là c'est n'importe quel objet.
Voilà, mais c'est ça, mais c'était une épée
de couleur
verte.
L'idée de base est clairement la même.
La techno est plus avancée.
Mais alors justement, est-ce que ça va pas. À terme, est-ce qu'on va vraiment toujours avoir quelque chose entre les mains? C'est la question que j'ai envie de vous poser,
évident,
messieurs.
Ce qui est évident, c'est qu'il y a une mutation. Et regarde, rien que quand Nintendo a annoncé donc la Wiimote un ou deux ans après avoir annoncé la Wii en elle-même, l'année d'après, donc ça a jasé, tout le monde en a parlé. Mm-hmm. L'année d'après, à l'E3, tu as eu Sony qui a immédiatement annoncé le Six Axis. Tu vois, vite fait, ils ont dit qu'est-ce qu'on peut rajouter dans la manette. Et
quelle connerie on peut faire.
Il y a des tas de rumeurs sur le fait que Sony est en train de travailler. Donc, soit sur. Il y a deux rumeurs. Une
pour Microsoft et une pour Sony. Voilà.
Il y a deux rumeurs chez Sony. Une manette qui s'ouvrirait en deux, tu vois, un peu comme le Nejicon, justement, qui s'ouvrirait en deux comme ça. Et aussi des parties de manette que tu mettrais sur ton corps. sur les mains pour diriger les mains du héros.
Oh mon dieu, le Power Glove, le retour.
Voilà, c'est ça. Mais on tourne un peu en rond, c'est évident. Mais
mais moi, en fait, j'espère pas. Vraiment, foutez-moi la paix, laissez-moi jouer dans mon canapé. Putain.
Et la rumeur, effectivement, chez Microsoft aussi. Bah,
tu peux jouer dans ton canapé avec des gants si tu veux.
Oh non, mais il faut bouger tout. Mais même la Wiimote, ça m'emmerde.
Non, moi,
on va revenir là-dessus après parce que ce serait intéressant de voir pourquoi justement ça peut te déranger. Et effectivement, t'es pas le seul à souligner ça.
Mais quand tu joues, par exemple, t'as joué à Metroid. Metroid, bah, c'est un FPS, donc du coup.
Ça me gave. J'aime jouer vautré. Ça me gave.
Ah mais tu peux jouer vautré.
Ah
on va revenir dessus dans quelques
instants. Donnez-moi 105 sous.
Messieurs, on va pas immersion. Tous en même temps, Julo. On va revenir vraiment là-dessus, mais justement, j'aimerais qu'on parle un petit peu parce que t'évoquais les rumeurs. Il y en a aussi concernant Microsoft.
Oui, c'est ça. Mais là, ce serait une copie pure et simple de la Wiimote, quoi, la même.
Codename Newton.
Ah, Newton, ouais, c'est ça. Donc avec exactement la même chose, quoi.
Évidemment, tout ça a été démenti 30 millions de fois par
bien
tout le monde.
Oui. Ouais.
Comme les autres manettes qui sont sorties après.
Mais il y a pas un E3 qui se profile dans quelques semaines?
Si.
Ce sera un bon test en tout cas.
Mais là, en même temps, je crois que Microsoft s'est peut-être aperçu que tout le monde est en train de dire, mais bon sang, quelle originalité, quoi. Ouais. Et en train de dire, voilà quoi.
Bah, c'est-à-dire qu'il faut apporter un truc en plus, quoi.
Alors, la manette de la première Xbox, c'était un melting pot, hein, comme tu disais, des deux manettes en place, quoi, de la Dreamcast et de la PlayStation.
Ça
n'avait
pas fini de cuire.
Rien ne se crée, tout se transforme.
Je sais pas si ça leur servirait à grand chose, quoi, de lancer ça. Surtout que maintenant, ils sont clairement positionnés gamers et tout, donc. Je sais pas. Sur cette génération, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, sur la génération suivante, il y aura forcément des tas d'innovations.
Bah justement, est-ce que c'est pas une manière d'apprendre pour être fin prêt lors d'une prochaine génération? Carrément, commencer à habituer les gens aussi.
Je pense, ouais. Bah, je pense que ça y est, la mutation, elle est faite chez le grand public, quoi. Mm-hmm. Déjà.
Mais justement, c'est effroyable. Non, il n'y a pas de connotation positive ou négative, mais c'est impressionnant, en tout cas, de voir à quel point la Wiimote, qui pouvait sembler un accessoire étrange, peut-être faire même peur, puisqu'il faut se repérer dans le mouvement, dans l'espace, pointer des choses à l'écran, appuyer, avoir deux choses séparées dans les mains. Finalement, ça a été accepté instantanément par le grand public, le très grand public même. Au même titre que la Nintendo DS avec son utilisation du stylet et son double écran, on rappelle les termes de Satoru Iwata. Au début, il disait, quand il parlait sans la nommer de la DS, quand on ne savait pas de quoi il allait s'agir, il disait, on va lancer une nouvelle console avec une innovation. Si 10% des gens trouvent ça satisfaisant, on aura déjà gagné notre pari. Eh ben écoute Satoru, hein, t'es 10%, ils ont sacrément gonflé.
C'est pour ça qu'elle s'appellerait pas Game Boy, en fait, si j'ai bien compris.
Ouais. Oui, c'est ça.
C'était un peu un test.
C'est
quoi.
Ça. C'était une console un peu annexe. Puis si ça se foirait, c'est pas grave, ça n'aurait pas fait de mal à la Game Boy. Voilà. En tout cas, de voir que ces nouveaux styles d'interaction, bah, on connaît
c'était vachement plus gagné pour la DS parce que ça reste similaire à l'écriture, quelque chose que tout le monde ou presque pratique ou a pratiqué. Pour la Wiimote, c'est pas tout à fait pareil, c'était plus compliqué à mon avis.
Mais le grand public avait pas le fardeau justement de cette habitude de la manette, etc. Donc il est allé vers. Moi, il y a des gens qui se sont mis aux jeux vidéo dans mon entourage uniquement parce que ça les a fait marrer.
Ah, mais c'est ça.
Non, tu veux dire uniquement parce qu'ils ont vu les pubs à la télé?
Non, pas du tout, justement.
Il y en a au lancement de la Wii. Quand tu connaissais pas vraiment le jeu vidéo, vaguement tu voyais ça, mais ça te parlait pas plus que ça. Mais c'est en allant chez les gens, en voyant qu'on pouvait jouer au tennis en mimant les gestes, faire de la voiture en faisant comme si on était dans un volant, avec un volant en main.
Mais le grand public a peur de la manette.
Ah, mais c'est ça. Ouais. Ah bah, mais parce
a
que.
Peur des boutons.
Il a peur
mais
des
a
boutons
raison.
Surtout, ouais.
Et du stick analogique. Ouais. Parce que moi, j'ai vu des personnes, c'est très difficile pour certaines personnes d'aller tout droit. Parce que constamment, ils penchent un peu à droite, à gauche. Et dans un jeu de voiture, bah, ils sont en train de zigzaguer constamment.
C'est
pour le grand public, c'est compliqué.
C'est pour ça que Nintendo avait cranté son truc sur le.
Et ça, c'était une sacrée bonne idée.
Sauf pour les jeux de combat où c'était une.
Pour les jeux de combat, ouais. Les affaires qui étaient fantastiques. Enfin, fantastiquement nul. On a parlé il y a pas longtemps, God quelque chose. Tu cherchais un jeu pourri, je t'ai dit God bidule.
Ah, je me souviens plus, c'était un jeu de Midway. Ouais.
Enfin, bon, écoutez, à la fin du podcast, si ça vous revient, hein, on sera là, on sera ouvert encore.
C'est un jeu tout vert.
Donc justement, ce qui est étonnant aussi, c'est de voir à quel point Nintendo a réussi à imposer ce nouveau style d'interface et à quel point, de son côté, Sony a eu beaucoup plus de mal avec l'iToy. Qui a connu un bon succès, mais enfin, c'est pas un carton phénoménal. Et pourtant, peut-être que c'est par là qu'il faut aussi aller chercher.
Mais non, c'est la grosse différence.
Pour l'innovation.
C'est un accessoire.
Voilà, fallait l'acheter en plus.
Pas vendu avec la console, ça change tout. Les accessoires, on sait très bien que dans le monde de la console, ça n'a jamais marché.
Je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, est-ce que maintenant, imaginons une console qui serait lancée uniquement avec une interface style iToy, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ça peut avoir un succès?
Bah, si c'est hyper bien foutu, il n'y a pas de raison. Je crois que Nintendo a démontré qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Vraiment.
Mm-hmm. Bah, si après, les jeux sont là. Ouais, c'est ça, c'est les jeux comme d'habitude. De toute façon, ça fait genre 20 ans qu'on dit ça.
Mais maintenant, le truc...
Est-ce que la technologie est mature déjà, aujourd'hui?
Je pense pas. Sans une installation un peu chiante à mettre en place, je pense pas. En revanche, il y a un truc sur la Wiimote qu'il ne faut pas oublier. C'est que incroyablement, c'est une manette à l'ancienne aussi. Mmh. Et ça aussi son effet sur le type de jeu, etc. Elle est vraiment multifonction, même si des fois elle est un peu limite sur certains types de jeux. Alors que là, tu parles vraiment d'un truc qui vraiment couperait complètement les ponts avec ce qu'on connaît. Là, je pense que ça peut poser un problème.
Et en plus, c'est une manette classique simplifiée, donc qui ne fait pas peur. Justement.
Exactement. Il y a deux boutons, une croix de direction quand tu la mets horizontalement.
Et deux gâchettes qui sont finalement super discrètes. Et voilà. Une gâchette, tu vois, super discrète. Quoi.
Est-ce que là, on parle de peur. Est-ce que juste avoir à faire des mouvements devant sa télé, ça fait pas encore moins peur au grand public?
Ah ouais,
parce qu'ils ont juste rien à faire, à part on leur demande de agite-toi à droite.
Mais par contre, comme disait Kaf, moi je pense que la technologie n'est pas prête. Hein. Non. Pour la simple et bonne raison que si elle était prête, il l'aurait déjà sortie.
Mais grave. Voilà. Je pense que quand elle sera prête, il y a Satoru, il va te parler, il va te refaire une déclaration, je crois. Et puis après, il va dire, les autres, c'était bien vos trucs, mais nous c'est mieux.
En gros, je repose ma question différemment. Est-ce que vous pensez que, encore sur la génération suivante de consoles, on va rester à quelque chose d'assez similaire à ce qu'on connaît aujourd'hui? Est-ce que les manettes vont disparaître et devenir finalement des accessoires et que la manette standard va devenir se wiimotiser chez les trois constructeurs ou pas?
Moi, j'ai juste un espèce de souvenir. Comme c'est de la mémoire, ça peut être faux, mais je me souviens qu'en fait, au départ, avant, on jouait avec des joysticks. Ok, on avait une grosse manette qu'on posait sur un.
Oula. En 1827, je me rappelle.
La plupart des jeux se jouaient comme ça.
Quand ça commence comme ça, c'est bon. Alors avant.
Et puis les paddles, les gamepads sont arrivés. Et à l'époque, beaucoup d'accessoiristes sortaient justement des joysticks sur des consoles qui jouaient au gamepad parce que c'était la tradition, parce que la plupart des joueurs connaissaient ça et jouaient à ça. Et ça a assez vite périclité et ça a laissé très rapidement sa place au gamepad de base qui était filé.
Non, mais les grosses manettes, genre arcade, etc., elles étaient surtout destinées à certains jeux, quoi.
Mmh. Ouais. Donc. En suivant ce raisonnement-là, si effectivement il y a quelque chose qui est amené à bien remplacer, à être mieux que les manettes qu'on a maintenant, sans nous handicaper, il n'y a pas de raison que la transition ne se fasse pas très rapidement. Mais après, la vraie question, c'est de savoir si effectivement il y a quelque chose qui est susceptible de le remplacer complètement et de les rendre obsolètes.
Autre question, justement, est-ce que Nintendo va pouvoir repartir en arrière? Est-ce que finalement la Wiimote, ce n'est pas la première étape de quelque chose de... d'encore plus... Enfin, faire disparaître de plus en plus la manette? Est-ce que cette Wiimote-là va juste légèrement évoluer, s'affiner peut-être au niveau de la détection?
Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne reviendront pas à une manette classique.
Est-ce que Nintendo va plus refaire de manette?
Bah, ils en font, regarde, ils en vendent des pads blancs pour la Wii.
Oui. Ah, qu'est-ce qu'il est classe en plus.
Bien sûr.
C'est trop mignon.
Mais vous me comprenez, vendu dans la boîte avec directement pour les jeux.
Je pense que ça va continuer d'évoluer. Maintenant, je pense qu'il y aura toujours un paddle dans le truc, dans la mesure où technologiquement, pour l'instant,
ce qui est sûr, c'est qu'ils reviendront pas en arrière. Est-ce qu'ils vont rester là-dessus et le faire évoluer, ou alors est-ce qu'ils vont faire une nouvelle innovation et partir sur une nouvelle innovation?
Je pense qu'on a de la Wiimote pour au moins 5 ans sans qu'elle bouge, hein, sans qu'il n'y ait pas de nouvelle version ou un truc comme ça. Donc, tu vois, d'ici 5 ans, la technologie aura quand même vachement bougé. Et effectivement, ils pourront passer à autre chose. Mais là, on est tous d'accord pour dire qu'ils ne reviendront pas au paddle conventionnel.
Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de s'imaginer ce que vont faire Sony et Microsoft. Quoi. Ouais. Parce que eux, vraiment, ils vont devoir prendre une décision hyper stratégique. Ouais. Quoi.
Et puis, quelque part, moi, je pense qu'il ne faut pas mettre que Sony et Microsoft dans la réflexion. Il faut mettre aussi les
Sega qui va revenir.
Shenmue
3.
Mais les éditeurs, les créateurs de jeux vidéo, parce qu'effectivement on voit aussi que les jeux, on va dire, sur PlayStation 3 et Xbox 360, les jeux plus gamers sont de plus en plus complexes, mine de rien, et demandent des interactions de plus en plus riches,
pas forcément.
Et ont besoin quand même de beaucoup de touches.
Bah pas forcément. Moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de jeux qui vont vers la simplification, qui essayent de faire le maximum avec deux boutons.
Enfin GTA par exemple, tu utilises à peu près toutes les touches de la manette. Metal Gear, tu utilises clairement toutes les touches de la manette. Call of Duty, tu utilises à peu près toutes les touches de la manette. Non, certains sont des raccourcis, faire apparaître l'inventaire ou quoi que ce soit, mais c'est agréable d'avoir des raccourcis quand même.
Oui, non, mais d'accord, mais tu peux trouver certainement plein d'autres exemples de jeux qui essayent au contraire de simplifier, de se faire à deux boutons.
Je pense pas que tu puisses faire tenir un jeu vraiment à grosse ambition comme un Metal Gear ou un GTA ou un truc comme ça dans une manette à deux boutons.
Assassin's Creed à la Wiimote,
ça va être compliqué. Hein.
C'est ce que j'ai envie de dire. L'évolution des manettes telles qu'on les connaît aujourd'hui, elle s'est pas faite juste pour ajouter des boutons sur la manette.
C'est par rapport au jeu.
Il y avait un besoin et ce besoin, il est encore là. Donc tu peux pas non plus. La Wiimote, elle répond à un autre besoin.
Exactement.
Maintenant, les deux sont pas forcément compatibles.
Ouais. Julo,
je vous rappelle que la Wiimote est livrée avec un nunchuk, bien heureusement, parce que si ça n'avait pas été le cas.
Non, mais bien sûr, mais je l'intègre.
Mais quand tu intègres le nunchuk, finalement, elle n'est pas incomplète que ça.
Non, quand même, vachement moins.
Bah, t'as un stick, deux, trois.
Non,
trois,
parce qu'en
quatre...
fait, t'as plein de boutons que tu peux pas utiliser quand tu es en version, quand tu tiens la manette, si tu veux. Donc,
t'as un stick, quatre boutons. Et une croix de direction sur la main droite aussi.
Bah sur le nunchuk t'as deux boutons aussi.
Non mais tu perds les, par exemple les boutons qui sont en bas de la Wiimote.
Oui elle, mais d'accord, mais t'en as quand même, enfin je veux dire,
non mais ergonomiquement parlant,
Metroid par exemple, je reparle de lui, c'est un jeu plutôt
oui mais c'est un
gamer,
FPS,
etc.
C'est un FPS, par exemple un jeu où, par exemple je pense à un Assassin's Creed, un Metal Gear, des jeux où on doit, par exemple le personnage doit sauter, s'accroupir, ramper, etc. C'est plusieurs touches, c'est plusieurs pressions sur, soit sur la même touche, c'est faire apparaître une carte, c'est faire des gestes différents. Ça peut être compliqué si on a supprimé certains boutons.
Ou tout simplement le jeu de baston, les enfants.
Ouais.
Les jeux de baston.
Ah bah ouais, les jeux de baston. Enfin, un jeu de
un
baston.
Jeu de foot.
Un jeu de baston à deux boutons.
Oui, c'est mais là, très bon exemple, je trouve, de la part de CAF, parce qu'un jeu de foot.
Tiens d'ailleurs, et si on parlait foot.
Tirer pas. Non, attends, c'est fini, on peut rien faire. C'est-à-dire qu'on a vu, ce que donnait un jeu de foot sur Wii.
Ah,
ça donne, oh ça donne, il se passe des choses de, voilà.
C'est la guerre en fait. On
exactement,
en
c'est le Kosovo dans la rue. On voit ce que donne PES sur Wii. Juste, ça n'a rien à voir, mais pas fondamentalement parce qu'ils peuvent pas le faire. Enfin, pas parce qu'ils ont pas voulu le faire, mais parce que justement, ils sont un peu obligés aussi de revoir leur copie.
C'était ça le principe de la Wii au départ, c'est qu'ils voulaient forcer la main aux, aux développeurs pour qu'ils fassent des jeux différemment et qu'ils aient des jeux différents sur Wii, etc. Et c'est un peu ce qui est inquiétant, c'est que quelque part, effectivement, il y a un manque sur la Wiimote, c'est qu'on peut pas faire tous les jeux conventionnels, on va dire. Effectivement, le jeu de baston, le jeu de foot classique.
Il y a un manque sur la Wii, tout quoi.
Voilà, hein. Donc si Sony et Microsoft se mettent d'un seul coup à dire « Ah, il faut qu'on fasse aussi une révolution, sinon on va crever », voilà, on risque de perdre un peu tout ce gaming classique.
Il y a la course à la technologie qui est remis en cause là-dessus.
Néanmoins, en termes de simplification par rapport aux boutons, etc., il y a aussi un impératif d'amener des genres de jeux qui sont traditionnellement plus gamers vers le grand public, et il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut faire en matière de contextualité par rapport aux actions du personnage en fonction de ce qu'il est censé faire à tel endroit du jeu. Et il y a aussi d'autres développeurs comme par exemple Molineux qui veut faire avec Fable 2 un combat sur un ou deux boutons maximum et utiliser énormément de choses contextuelles. Alors ça va peut-être marcher ou pas, mais en tous les cas il y a aussi cette direction là à exploiter où on peut faire des jeux typés hardcore, où on peut faire plein de choses différentes,
avec
mais sans avoir
simplifié.
Voilà.
Mais pas au détriment de la qualité du jeu, de l'immersion.
Non,
etc.
Mais en tous les cas, qui favoriserait son accessibilité en permettant aux gens de jouer avec un ou deux boutons et pas plus.
Et c'est peut-être ce vers quoi va tendre justement toute l'industrie aussi, hein, très clairement. Il y a de plus en plus d'actions contextuelles, de choses sur lesquelles finalement il suffit juste d'appuyer sur un bouton. On a vu le retour des Quick Time Event.
Voilà.
Non, mais mine de rien, qui sont plutôt, quand c'est bien intégré, ça apporte une vraie dimension supplémentaire. Moi perso, j'aurais bien aimé en avoir certains dans Metal Gear par exemple, ça aurait permis de jouer un peu sur, sur certains actes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, hein, c'est pas évident hein, de définir le futur de à quoi ressembleront les manettes, est-ce qu'elles existeront encore dans 10 à 15 ans.
Bah, il n'est pas Elisabeth Tessier
qui veut
hein,
c'est ça.
Qui prédit la victoire de la France à l'Euro.
C'est ce qu'elle avait dit.
Oui, brillamment
d'ailleurs. Bah, pas mal. Ah ouais, très bien.
Fail.
Mais en tout cas, ce sera très intéressant de voir ce que ça va.
Fail.
Ah oui, ça clairement. De voir ce que ça va pouvoir donner, en tout cas dans les mois, années à venir en tout cas. Et c'est vrai qu'avec le succès que remporte Nintendo avec ses manières de jouer un peu différentes dans l'interface avec la Nintendo DS et le stylet, et à la fois avec la Wii, avec la Wiimote, et ben en tout cas ça peut tracer des nouveaux sillons et changer aussi quelque peu la donne. Et puis il faudra voir un peu ce que donnera l'intégration des caméras. Aujourd'hui c'est pas effectivement encore à 100% super précis. Mais le jour où ça marchera parfaitement, on pourra peut-être imaginer des interfaces à la Minority Report. Et là, quelque part, ça peut être la classe aussi.
Ah bah, ça faudrait vraiment changer le diffuseur. Alors, ça serait génial qu'on ait plus de télé, en fait, plus d'écran.
Ah mais putain, on va taper, on va avoir super mal au bras parce que moi, RPG, les bras en l'air, je le fais pas. Hein.
En tout cas, une chose qui a complètement disparu, mais alors là, vraiment quasiment complètement disparu, c'est la réalité virtuelle avec le casque, le
oui,
masque
non,
à se mettre sur
mort,
le visage.
Ça,
hein.
Ça c'est fini. Au
ça,
revoir,
je crois qu'on reviendra pas dessus. Hein.
Bah pourquoi pas, si c'est une installation très légère.
Je
juste comme des
pense
lunettes
pas avec,
de
un,
regarde,
pas
regarde,
avec un casque en tout cas.
Non, mais... regarde, un truc très simple. Tu es aujourd'hui, tu as envie de jouer à un jeu en réalité virtuelle, on te dit, vas-y, mets chez toi, il fait 42 degrés, mets un casque sur la tête.
Oui, c'est bien pour ça que je parle de juste des lunettes légères.
Ah oui, très légères.
Moi, je pense que ce sera neuronal. Mais c'est une autre histoire. Ah bah,
oui, moi je veux brancher,
on est d'accord,
voilà.
Bien sûr.
On se barre, voilà. Et on se barre dans la machine.
Quand il est là, t'auras pas besoin de bouger du tout, tu pourras laisser ton corps péricliter tout seul.
Et bah ça, c'est bien.
Ok, Julo qui disait discrètement parce qu'il avait pas de micro, et tu pourras faire l'amour avec plein de femmes.
Un peu comme dans Demolition Man.
Que étonnamment,
exact. Comme dans Demolition Man, un extraordinairement bon film.
Merde, je l'ai pas vu. Alors, peut-être
ah bah,
que je le mate,
avec Sandra Bullock.
Sandra Bullock avec son petit futal de futur là.
Ça suffit maintenant.
Ou quand on dit une seule insulte,
il
y a une amende. Enfin bon, je sais pas pourquoi je parle de ça. En tout cas, voilà. Hein, maintenant, les forums vous sont clairement ouverts à vous de définir un petit peu votre vision du futur des des manettes ou pas, ça se fera avec elle ou pas, le futur du jeu vidéo. À vous de nous dire ce que vous en pensez, ou aussi de nous parler des manettes qui vous ont vraiment marqué. Si vous avez des manettes super originales, complètement débiles, qu'on aurait oubliées, ou des interfaces de jeu.
Il y en a certainement
qui,
plein.
Oh, clairement, qui vous font, qui vous ont halluciné dans le passé. Eh ben, écoutez, allez-y, n'hésitez pas. Mais avant de conclure ce podcast, podcast numéro 63, on aimerait faire un petit teasing sur le podcast de la semaine prochaine. Vous allez voir un podcast événement encore. Le podcast 64, nous recevrons un invité exceptionnel. Et il est avec nous déjà dès ce soir. Il s'agit de Florent Gorge. Florent Gorge, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien ?
Très bien, merci.
Bon, alors ça fait des mois, des années que tu bosses sur quelque chose, une espèce de bible du jeu vidéo, une sorte d'intégrale de l'histoire de Nintendo. C'est de Pixel Love dont il s'agit. Et là, ce sera un volume 1 qui sera dédié à l'histoire de Nintendo. Tu vas nous dire de quelle date à quelle date ?
Alors exactement, c'était un projet en fait sur lequel j'ai travaillé plusieurs années, 6 au total, qui sortira donc aux éditions Pixel Love, qui est une maison d'édition qui sort un certain nombre d'ouvrages. Et l'ouvrage qui sort en fait la semaine prochaine, concernera en fait l'histoire de Nintendo sur une période qui reste relativement inconnue pour tous les gamers et même les amoureux Nintendo, qui est donc l'année de la fondation, 1889, donc plus de 130 ans, presque 130 ans, jusqu'au Game & Watch en fait en 1980, donc une période qui retrace l'histoire de Nintendo sur presque 100 ans, un centenaire.
Oui, c'est ça. Hein. Et alors, franchement, c'est une mine incroyable. On a eu la chance de le voir en avant-première. C'est même pas un magazine, là, c'est vraiment un livre. Hein,
Ah non, c'est pas du tout le concept de MOOC qu'on a pu publier jusqu'à présent. Passé, là, c'est un véritable livre, en fait, avec une qualité de papier qui.
Très classe.
Bah, on a essayé de faire les choses.
Petit c'est format. Surtout le contenu, moi, qui est impressionnant.
Ah, mais c'est ça. Non, mais c'est incroyable. Vous allez voir des. C'est même pas des anecdotes puisque c'est l'histoire de Nintendo.
C'est un
vous
truc
allez
que
voir
même
des photos...
au Japon ils ont pas et ils n'auront pas. Voilà.
Ouais, alors en ce sens, ça reste un document assez inédit puisque inédit. Même au Japon il y a pas ce genre de document publié. Ça n'a jamais été publié.
Ah non mais c'est ça. Tu nous raconteras la semaine prochaine un petit peu comment tu as travaillé parce que c'est vraiment tu nous le disais une enquête sur plus de 6 ans avec des photos incroyables juste en petit teasing. Par exemple, moi j'ai entreaperçu une photo de Yamoshi à 6 ans. C'est jamais vu ça. Et puis alors il y a clairement pas que ça. Il y a tout ce qu'a fait Nintendo avant même le jeu vidéo.
Des jeux de cartes, etc. Hein.
Voilà, donc on remonte en 1889 et on présente effectivement des jeux de cartes, donc des Hanafuda, comme on dit là-bas, qui ont plus d'un siècle en fait. Et puis on passe aussi directement sur les jeux de société, des tas d'objets complètement bizarres que Nintendo a pu faire aussi.
Combien de pages ?
228.
228 pages, et ce n'est que le premier volume, il y aura plusieurs d'ailleurs.
On en prévoit 7 pour le
c'est
moment.
Ça. Ouais. Voilà, et bah écoute, ça nous fera vraiment plaisir de te recevoir, Florent, dès mercredi prochain dans un podcast vraiment événement. Tu nous parleras un petit peu plus en profondeur. Ça sortira juste quelques jours après, je crois.
Le 3 juillet, très exactement.
Le lendemain, le lendemain de notre podcast de mercredi prochain. Donc, on ne vous en dit vraiment pas plus. Maintenant, justement, nous, ce qu'on aimerait, c'est que vous nous posiez des questions aussi. On va faire, je crois, une news spécifique dans laquelle vous allez pouvoir poser toutes vos questions sur Nintendo, l'histoire de Nintendo, ce qui vous intéresse, ce que vous auriez envie de savoir. Et justement, eh bien, comme tu tiens un petit peu dans les mains un peu la Bible Nintendo sur cette période vraiment de la genèse de cette société, eh bien, tu pourrais y répondre, donner un petit peu aussi envie de découvrir un peu ce livre.
Eh bien, j'espère.
Eh bien, j'espère. Et en tout cas, c'est une certitude parce que nous on a eu vraiment la chance de le feuilleter.
On a déjà commandé nous.
Et c'est ça, c'est même pas à feuilleter, c'est à mettre sur son chevet quand on est fan de jeux vidéo, c'est juste pour sa culture personnelle, c'est juste un très beau voyage. Merci Florent, merci à vous, Raon, Caf, Julo, Angel.
De rien, de rien.
Merci Table à Repasser, merci Table à Mixette, merci moi. voilà, on vous dit à la semaine prochaine donc pour un podcast événement autour de l'histoire de Nintendo. Vraiment des choses que vous n'avez entendues nulle part ailleurs. Vraiment, c'est assez hallucinant tout
c'est
ce qu'on va pouvoir vous dire.
Veux dire.
C'est exclusif et surtout c'est gratuit dans les podcasts.
Pas mal.
Et on parlera de Nintendo, la saga, la semaine prochaine dans les podcasts de Gameblog. D'ici là, portez-vous bien et puis surtout, jouez bien. Ciao, ciao.
Ciao. Salut. Thank you.